travail du romancier, c'est un travail de regard. Il y a quelque chose de cinématographique, en ce sens qu'on prend une pièce, on s'approche des objets. Il y a des sortes de travelling avant, de gros plans sur les objets. Enfin, quelque chose qui, pour moi, est se réfère un peu à ce qu'on appelle en peinture l'hyperréalisme. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelque chose qui ressemble au réalisme. C'est-à-dire que c'est une description qui a l'air d'être réaliste. Et en fait, elle est tellement exacerbée ou maniaque qu'elle fait complètement craquer la réalité. Et c'est dans ce craquement que surgit l'imaginaire. Je crois que le problème, pour moi, c'était d'arriver à une sorte de regard... Bon, il faut que je mette beaucoup de guillemets parce que c'est, je dirais, naïf. C'est-à-dire de voir les choses comme si je ne les avais jamais vues. Donc de les décrire complètement, même si c'est trop.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Le travail de l'écrivain, selon Georges Perec, qui publiait alors La vie mode d'emploi, est d'abord affaire de regard. Regarder les choses, les hommes, les paysages, de suffisamment près pour fissurer la réalité et laisser entrer l'imaginaire. Avant lui, Flaubert l'avait déjà posé en principe. « Il suffit, écrivait-il à Louise Collet, de regarder assez longtemps une chose, même la plus banale, pour qu'elle devienne intéressante. Encore faut-il au départ, et comme on dit, avoir l'œil, celui du photographe ou celui de l'écrivain, un œil d'enfant pour s'émerveiller de l'envol d'un oiseau et un œil de vieillard pour déceler derrière ce bruit d'aile la menace qu'il a provoquée. » Photographier l'instant avant qu'il ne passe et puis écrire l'histoire qui surgit, comme le dit Perec, dans le craquement de la réalité fixée sur la pellicule. L'écrivain espagnol Javier Cercas a l'œil, conteur hors pair, peintre de la complexité des âmes et des zones grises où ses héros tentent de vivre. Il tisse des récits où s'entremêlent vérité et fiction, héroïsme et trahison, histoire et oubli, pour finalement nous laisser à la dernière page, avec nos questions en suspens. Écrire autour du mystère, de ce point aveugle qui existe dans toutes les bonnes histoires, cette énigme que seul le lecteur saura interpréter, s'il le souhaite, c'est à nouveau ce qui fait la force de Terra Alta, traduit par Alexander Krujicic et Karine Louénon, tout juste paru chez Actes Sud. Écrit sous forme de polar, ce récit parle de la quête de rédemption d'un homme, Melchior Marín, devenu flic après un séjour en prison où il a découvert, avec Les Misérables, la puissance émancipatrice des romans. Et en un parallèle troublant, Javier Cercas nous propose, dans le cadre de l'exposition Cartier-Bresson « Le Grand Jeu », à voir à la Bibliothèque nationale de France jusqu'au 22 août, sa sélection d'une cinquantaine de clichés du maître, en nous invitant à chercher au-delà de leur fausse évidence. Bonsoir Javier Cercas, heureuse de vous retrouver.
Bonsoir Catherine.
Et de vous retrouver pour deux actualités apparemment dissemblables. Bon, la parution d'un roman, on est habitué à vous suivre d'année en année chez Actes Sud, votre éditeur en France, et puis comme co-commissaire d'une exposition formidable, parce que les expositions Cartier-Bresson, c'est toujours passionnant, et celle-là est d'autant plus exceptionnelle qu'il s'agit d'une collection de 385 tirages, choisis par Cartier-Bresson en 73 pour un couple d'amis mécènes, et à l'intérieur de ces 385 photos, pour lesquelles il n'y a pas de chronologie, d'explication, il les a choisis, il les a donnés et vous-même à l'intérieur les avez choisis. Comment est-ce que vous avez fait le lien qui s'impose pour celui qui regarde de près ces photos et qui lit le livre, ce lien étrange entre l'écriture d'un livre dans votre veine habituelle et le commentaire de photos? Quel est votre lien avec la photographie et avec ces photographies-là?
L'hasard, je dirais. Parce que on m'a proposé un jour faire des co-commissaires de cette exposition et évidemment au commencement je pensais non, je dirais non. Je savais que les autres commissaires étaient formidables, Annie Leibovitz, Wim Wenders,
François Pinault et Sylvie Aubinin,
des gens qui connaissaient très bien la photographie, l'histoire de la photographie et tout ça. Et je dis non, je dirais non, évidemment. Je ne connais pas la photographie, je ne suis pas un spécialiste. Évidemment, j'ai vu des photos de Cartier-Bresson comme tout le monde, mais je ne suis pas même un spécialiste. Alors je dirais non. Mais À ce moment-là, j'ai pensé à cette phrase que vous avez citée de Flaubert. Il suffit de regarder une chose beaucoup de temps pour qu'elle devienne intéressante. Et j'ai dit, bon, mais Cartier-Bresson, c'est intéressant par lui-même. Alors je dirais, bon, allons-y, je ferai... C'est une décision téméraire, vraiment. Mais le résultat de cette témérité a été pour moi un éblouissement. Comme j'ai dit, je connaissais Cartier-Bresson, mais je ne savais pas jusqu'à quel point il était un artiste extraordinaire. Et jusqu'à quel point j'avais, ce que j'ai travaillé, était en contact avec ce qu'il faisait.
Oui, on pense d'ailleurs, en voyant votre sélection de photos, d'une cinquantaine de photos sur ces 385, Javier Cercas, on pense à ce que vous dites au fond des romans, enfin ce que dit votre héros, Melchior Marín, qu'au fond, lui, il dit, les romans nous regardent autant qu'on les lit. Et vous, j'ai l'impression que ces photos vous ont regardé encore plus que vous ne les avez regardées. Il y a quelque chose qui s'est passé de secret, de mystérieux, et c'est ça qui vous intéresse au fond.
Absolument. Cette relation personnelle avec l'art, c'est l'essence de l'art. C'est-à-dire, il y a un moment dans Terra Alta où un personnage, en fait le personnage s'appelle Le Français, parce qu'il est français, il est dans une prison espagnole, mais il est français, un personnage pour moi fascinant, qui découvre la littérature à Melchior, à la protagoniste, qui lui dit une des peu vérités absolues que je connais. Il dit... La moitié d'un roman l'écrit le romancier, l'autre moitié l'écrit le lecteur. C'est-à-dire, un roman, c'est une partiture, et c'est le lecteur qui interprète cette partiture. Et chaque lecteur interprète la partiture à sa manière, à sa façon, non ? Et ça, c'est la magie de la littérature. Mais ça, c'est aussi la magie de l'art en général, et de la photographie en particulier. Et de te fabula narratur, dit Horace, le poète latin, l'histoire parle de toi. Un roman, que c'est un bon roman, c'est un roman qui nous parle, qui parle de notre histoire. C'est ça exactement qui a senti Melchior Marín quand il commence à lire. Il est complètement anti-intellectuel, il n'a jamais lu un roman, il est vraiment un sauvage, violent, etc. Mais quand il commence à lire Les Misérables, il sent que ce roman parle de lui. Et c'est exactement ça que j'ai senti quand j'ai regardé avec attention, avec une attention que je n'avais prêtée apparemment à les photos de Cartier-Bresson. C'est-à-dire ces photos... Là, il y a tout. C'est-à-dire, il y a un respect énorme pour l'être humain. Ça, c'est pour moi très émouvant. Il y a l'humeur. On ne parle pas beaucoup de ça quand on parle de Cartier-Bresson.
L'humour.
Et il y a l'humour, c'est essentiel. Mmh. Mais une humeur très spéciale. Parce qu'il ne rit pas des gens qui sont là. Il rit avec eux, avec les êtres humains qui sont comme lui. Non, il y a cette attitude énormément d'une grande humilité. Ça, c'est ce que j'admire. Je crois que c'est le signe du grand artiste. Et alors, il y a aussi, vous avez parlé du point aveugle, c'est-à-dire de cette ambiguïté centrale que je trouve que c'est... Bon, je cherche dans mes romans, et je crois que c'est au centre de grands romans, mais aussi c'est au centre de grandes photos de Cartier-Bresson, c'est-à-dire il laisse un espace pour l'interprétation, pour que le spectateur construise sa propre... photo.
Alors, Javier Cercas, en même temps, il y a tout de suite une contradiction qui se retrouve entre le travail de l'écrivain que vous pratiquez à partir de cette citation de Flaubert, regarder suffisamment longtemps pour pouvoir écrire l'histoire dans la banalité de ce que vous voyez. Mais lui, Cartier-Bresson, on le sait très bien, il ne théorisait pas la distance, la longueur, il théorisait l'instant décisif.
Pour moi, c'est la géométrie, la composition. C'est la structure. Alors, tout ce qu'on voit, ce qui vous amuse, ce qui vous choque, ce qui vous dégoûte, ben, ça vient du subconscient et ça sort comme ça. Mais c'est d'être dans le moment immédiat. Et pour moi, il n'y a pas... Le passé, l'avenir, ça ne compte pas. C'est le moment présent et dans toute sa plénitude. Il n'y a que l'instant, pour moi. Et... On est nourri du passé. Bon, très bien. Et puis l'avenir, alors, dans un monde comme celui-ci, qui est un monde catastrophique, où l'homme est en train de se suicider, alors il faut la plénitude dans l'instant. Ne pas prendre des photos, mais que les photos vous prennent. Si on prend des photos, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, etc. Il ne faut pas. Il ne faut pas vouloir. Il faut faire le vide, et puis être présent, être la plaque sensible. C'est ça la merveilleuse chose dans la photographie. Saisir la chose qui disparaît. Et moi, je ne vis que dans l'instant. Il y a l'instant et puis l'éternité. Entre les deux, c'est le vide.
Javier Cercas, on se rend bien compte qu'Henri Cartier-Bresson ne détestait pas les contradictions. Parce que quand il dit, oui, bien sûr, l'instant pour le geste du photographe, mais quand il dit, oh, le passé, le futur, en fait, un photographe n'est bon que lorsqu'il photographie avec son passé et avec son regard sur l'actualité. Il n'y a pas, même s'il dit, il faut l'oublier, en fait, un homme, comme un écrivain, écrit avec son bagage sur le dos. Et un photographe photographie avec tout ce qu'il a traversé avant. Et on sait que Cartier-Bresson a traversé la guerre.
A traversé la guerre.
Les guerres même.
Oui, les guerres. Et la guerre d'Espagne était très importante pour lui. Mais je suis complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire, quelqu'un a parlé de l'instant éternel. C'est la seule chose qui existe. Le futur, c'est une conjecture. Le passé, c'est une illusion. Et oui, et cette idée de l'instant décisif de Cartier-Bresson, pour moi, je crois que c'est essentiel. Il dit que c'est essentiel, mais je crois que c'est essentiel parce que là, ce qu'il veut faire, et c'est que ce qu'on appelle le photojournalisme fait, c'est une opération esthétique très étrange, en fait. Parce que c'est théoriquement impossible. C'est-à-dire, il y a la vérité de l'histoire, la vérité du journalisme, que c'est une vérité concrète, non, spécifique, tout ça. Qu'est-ce qui se passe à certaines personnes, dans certains lieux et à certains moments? Ça, c'est la vérité historique, journalistique, mais en même temps, il y a la vérité de l'art. La vérité de l'art, c'est contradictoire. C'est une vérité abstraite, c'est une vérité morale, c'est une vérité universelle. C'est-à-dire, elle cherche qu'est-ce que nous passent tous les hommes et toutes les femmes pendant, dans tous les lieux, etc., non, et tous les temps. Et ces deux vérités sont contradictoires, non? Pour arriver à la vérité esthétique, artistique, il faut normalement manipuler à travers la fiction, etc. Et alors, théoriquement, ce qu'il cherche, c'est la conciliation entre ces deux vérités. Mais la solution pour cette conciliation, c'est l'instant décisif. C'est-à-dire ces moments où la réalité, d'une façon mystérieuse, semble prendre un sens. Non? La réalité n'a pas de sens. La réalité, c'est comme le vers de Shakespeare, non? A tale told by an idiot full of sun and fire and signifying nothing. Non? L'histoire racontée par un idiot, plein de fureur et de bruit et tout ça, et qui ne signifie rien. C'est ça, le chaos total. Mais il y a des moments où cette réalité, apparemment, d'une façon étrange, prend un sens. Et ça, c'est l'instant décisif. Ça, c'est qu'il cherche dans ses photos. Et le signifié de cet instant n'est pas toujours clair. Ça, c'est fascinant. C'est-à-dire, il y a dans Cartier-Bresson cette réalité, je dis une réalité onirique. Non, ça, évidemment, vient de son...
Son compagnonnage avec les surréalistes.
Exactement. Mais ça, là, c'est très clair. Parce que c'est la réalité qui devient onirique, qui devient très étrange. Mais en même temps, il y a une sorte de sens dans cette étrangeté, dans cette forme qui prend la réalité. Non, je parlais, dans les textes que j'ai écrit pour cette exposition, j'ai cité Borges, que c'est un de mes maîtres, et il dit « L'art, c'est une imminence de révélation qui ne se produit pas. » Et ça, c'est exactement ce qu'on voit dans les grandes œuvres et dans le photo de Cartier-Bresson. On a l'impression qu'on est dans une imminence de révélation, qu'il y aura cette révélation dans le sens, mais ça ne se produit pas. Le sens, c'est le lecteur qui donne. C'est le lecteur qui donne le sens final, oui, à cette
image. D'ailleurs, c'est vraiment un point de rencontre entre le travail de Cartier-Bresson et le vôtre. C'est ça, c'est explorer ce... Ben, vous l'avez théorisé, vous avez publié un petit livre là-dessus sur le point aveugle. Lui aussi, dans ses photos, d'ailleurs, c'est très clair dans le choix que vous avez fait, Javier Cercas, il y a souvent des gens qui regardent quelque chose que nous ne voyons pas. Il y a une histoire qui se raconte. Et ça relie beaucoup avec l'histoire de Melchior Marin que vous racontez dans Terra Alta. C'est cette découverte de la littérature qui lui dit quelque chose, enfin qui semble dire quelque chose, et lui, il va entendre autre chose parce que ça tourne là aussi autour d'un mystère. On écoute une première lecture de votre livre, Terra Alta. C'est Jean Lemarié qui nous a prêté sa voix.
Ce matin-là, Melchior commença sa lecture. Il le fit avec un manque absolu de conviction, mais, influencé par le commentaire du français, il le fit aussi comme si ce n'était pas lui qui lisait le roman, mais le roman qui le lisait. Et au bout de 100 pages, parvenu à l'épisode où Jean Valjean, tout juste sorti du bagne, affamé, transi, épuisé et en guenille, erre dans la ville de D à la recherche d'un refuge sans que personne accepte de l'héberger, il s'aperçut que les larmes coulaient sur ses joues. Déconcerté, sans comprendre ce qui lui arrivait, il interrompit sa lecture pour les sécher. Et il reprit. De souffrance en souffrance, il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était une guerre et que dans cette guerre, il était le vaincu. Il n'avait d'autre arme que sa haine. Il résolut de l'aiguiser au bagne et de l'emporter en s'en allant. Il fut agacé, révolté, électrisé par ces mots qui achevèrent de le rapprocher de Jean Valjean, ce condamné hargneux, infortuné, sombre et absent qui ne riait jamais et semblait occupé à regarder continuellement quelque chose de terrible. L'identification pourtant dura peu. Quelques pages plus loin à peine, Jean Valjean changea de nom et devint Monsieur Madeleine. L'industrieux et vertueux et saint et savant et respecté Monsieur Madeleine. Et Melchior sentit ce personnage lui devenir lointain et insipide. Ce fut précisément à ce moment-là que dans le roman apparut, heureusement, du moins heureusement pour lui, Javert. Un policier aux yeux de rapace, au cœur de bois et au visage de chien accouché d'une louve, un déraciné sans espoir et sans avenir, fils d'un bagnard et d'une chiromancienne, qui trouve ses racines, son espoir et son avenir dans l'attachement inflexible à la cause de la loi et qui devient le persécuteur implacable de Jean Valjean, son ennemi juré, sa némésis. Javert l'éblouit.
Javier Cercas, le personnage de Melchior Marín, est très fascinant parce que c'est un délinquant, c'est le fils d'une prostituée assassinée. Il est en prison. Par un tour de passe-passe, en sortant de prison, on va réussir à lui effacer son passé. Il deviendra flic, policier, en Catalogne. Et ce flic qui a découvert dans Les Misérables le personnage de Javert, c'est-à-dire celui, l'extrême du flic, celui qui va appliquer la loi quoi qu'il en coûte, comme on dit aujourd'hui, en fait, vous allez le transformer peu à peu par la lecture des romans. Quand il va arriver en Catalogne, dans Terra Alta, il va lire, grâce à une bibliothécaire qui les finira par épouser, beaucoup de ses romans, y compris des romans du XXe siècle. Il va lire Georges Perec, qu'on entendait au début. Il va lire Le Guépard, Le Tambour, Le Docteur Jivago. Ce sont des romans qui vont finalement reconstruire Melchior Marín. C'est un pouvoir extraordinaire que vous donnez à la littérature. C'est, pour vous, ça a été aussi quelque chose de constructeur dans votre vie. Alors, on sait que pour vous, c'était pas du tout Les Misérables, c'était Cervantes, le Don Quixote. Mais est-ce que vous pensez que, au fond, ces livres qui nous parlent de nous, qui nous lisent, finissent, comme dans le cas de Melchior Marín, par faire basculer nos certitudes, notre façon d'être au monde, notre façon d'être avec les autres?
Je suis absolument sûr de ça. Parce que c'est évident. C'est-à-dire, écoute, la littérature, avant tout, c'est un plaisir. Comme le sexe. Mais en même temps, c'est une forme de connaissance. De toi-même et des autres. Comme le sexe. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas la littérature, je pense toujours à lui donner les condoléances ou quelque chose comme ça. Et alors, on expérience ça chaque jour. C'est-à-dire, la littérature change la vraie littérature change notre forme de voir le monde. Évidemment, c'est pas comme le cas de Melchior Marín, parce que dans le cas de Melchior Marín, sa vie change complètement, d'une façon absolument radicale. On ne peut pas lire d'une façon impunie la grande littérature, c'est impossible. Il y a un changement de notre vision du monde. Ce que fait la littérature, c'est nous beaucoup de choses, mais la forme essentielle des connaissances pour moi de la littérature, c'est de mettre en question notre certitude plus enracinée. Par exemple, Terra Alta, ce roman, il y a la question centrale de ce roman, pour moi, écrire un roman, c'est formuler une question complexe de la façon plus complexe possible. C'est ça, écrire un roman. Et pas répondre. Ça, c'est très important. Au moins, pas répondre d'une manière claire, taxative, univoque. Les réponses de roman sont toujours ambiguës, contradictoires, polyédriques, non? En fait, à la fin, la réponse, c'est la quête même d'une réponse. Alors, la question centrale de ce livre, c'est est-ce que la vengeance, c'est légitime? Quand la justice ne nous fait pas justice, ça c'est la question centrale. Et évidemment, vous-même, moi-même, tout le monde qui nous écoute dirait non, la vengeance, c'est impossible, n'est pas jamais légitime, non? Comme un vieux flic dit dans le roman, qui ne respecte pas la forme de la justice ne respecte pas la justice. Alors, nous sommes tous d'accord parce que nous voulons être civilisés et tout ça. Ok. Mais dans la fiction, c'est complètement différent. Dans la littérature, c'est complètement différent. La littérature, j'insiste, c'est un plaisir, mais c'est une forme de connaissance. Et la forme de connaissance, c'est de nous obliger, en échange de plaisir, à empathiser, comme on dit aujourd'hui, à comprendre des actions de personnes, des idéologies que nous détestons, qui ne sont pas pour nous. Et nous obligent à nous permettre de faire sortir ce que Georges Bataille appelait la part maudite. La littérature, c'est le lieu de cette part maudite, du mal. Non, la littérature en général, l'art en général fait ça, selon moi.
Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Pour moi, c'est la chose la plus difficile, c'est le portrait. Parce qu'il y a une connivence, la personne veut bien que, n'est-ce pas, attends une photo. Mais, je sais pas, quand j'ai fait un film, bien, je sens qu'il est temps de partir. C'est le grand maximum. Enfin, il faut être discret. Puis en même temps, il faut deviner, il faut deviner. Je ne peux pas faire le portrait de quelqu'un que dont je n'ai pas lu les œuvres, ou je n'ai pas vu la peinture, ou écouté la musique. Je n'ai jamais pu faire le portrait d'acteur, parce que, je ne sais pas, enfin, ils sont habitués à changer de personnalité, c'est leur métier.
Javier Cercas, dans le choix des photos de Cartier-Bresson que vous avez installées à la Bibliothèque nationale de France pour cette exposition des photos de Cartier-Bresson, vous avez regroupé ces photos en quatre chapitres autour de quatre portraits. On vient d'entendre Cartier-Bresson dire à quel point c'est compliqué de faire des portraits. Et ces portraits, ils sont magnifiques, ces quatre portraits d'écrivains. Ezra Pound, Albert Camus, William Faulkner et Sam Beckett. On va s'arrêter plutôt sur William Faulkner parce que vous l'avez mis avec cette phrase que l'on répète sans arrêt, mais qui, au fond, est presque la définition parfaite de votre œuvre d'écrivain. C'est « Past is not past, it's not even past ». Le passé n'est pas passé, il n'est même pas passé. Et c'est quelque chose qui traverse évidemment la photographie aussi, mais l'écriture de vos romans, et notamment de ce dernier, parce que ça se passe en Terra Alta, en Catalogne, tout à côté de là où s'est déroulée la bataille de l'Ebre. Et tout au long de ce livre, Melchor Marín, qui lui vient de Barcelone, va découvrir à quel point ce passé agit encore sur la vie actuelle des gens. Et ça, c'est évidemment tout ce qui traverse votre œuvre, ce passé qui est toujours là, ce passé de la guerre d'Espagne. Et en même temps,
On va écouter d'ailleurs, avant d'en parler, une lecture de votre livre, parce qu'il va faire la différence entre la bataille de l'Èbre qui a façonné ce paysage, qui est encore dans les blessures des corps et de la terre, et la guerre d'Espagne. Et c'est Olga, sa femme, qui va lui expliquer.
Ton père a fait la guerre, demanda-t-il. Non, répondit Olga. Il était gamin à l'époque, mais plus vieux, il m'en a beaucoup parlé. Melchior esquissa un sourire. C'est bien connu qu'ici, en Terra Alta, les vieux n'arrêtent pas de parler de la guerre, commenta-t-il. Un collègue m'a dit que c'était comme s'il ne s'était rien passé d'autre ces 80 dernières années. C'est peut-être vrai, dit Olga. Ici, tôt ou tard, tout s'explique par la guerre. Le vent avait faibli ou ne parvenait plus jusqu'à la place dont le centre était tapissé des feuilles tombées des mûriers. De toute façon, si tu regardes bien, en réalité, ce n'est pas de la guerre que parlent les gens, c'est de la bataille de l'Èbre. Ce sont deux choses différentes. La bataille a duré 4 mois, la guerre 3 ans. La bataille, c'était une horreur, mais il y avait là une certaine dignité. Des gens du monde entier y ont pris part. Elle figure dans les livres d'histoire et elle a même ses monuments. Mais le restant de la guerre, ça a été une horreur brutale, une angoisse terrible. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est la guerre, pas la bataille de l'Èbre. Elle baissa de nouveau le regard, sans cesser de toucher la balafre creusée par le vieux fer des baïonnettes. On aurait dit que ses doigts lisaient sur la pierre polie ce qu'elle était en train de dire. La bataille n'a fait que laisser des blessures visibles, continua-t-elle, comme si elle ne parlait pas à Melchior, mais à elle-même. Les tranchées, les ruines, les collines jonchées d'éclats d'obus, toutes ces choses que les touristes aiment tant. Mais les vraies blessures, ce ne sont pas celles-là. Ce sont celles que personne ne voit. Celles que les gens conservent secrètement. Ce sont elles qui expliquent tout, mais de celles-ci, personne ne parle. Et, qui sait, c'est peut-être mieux comme ça.
La Vierge Cercas, on comprend bien que dans cette zone géographique de l'Espagne, le passé affleure la terre. On retrouve encore des tranchées, les traces des obus. Mais on sait aussi que Melchior Marín, comme nous deux qui parlons ici ce soir, nous vivons dans un temps où le passé n'existe plus. On nous le répète assez, c'est le présent et puis l'avenir, faire des affaires. Pourquoi s'embarrasser avec ce qui a empoisonné la vie de nos parents, de nos grands-parents? Mais c'est notre héritage. Et vous, inlassablement, dans tous vos livres, vous faites vôtre la phrase de Faulkner. Ce passé n'est pas mort, il est là. Et si on n'en tient pas compte, on ne peut pas vivre sa vie. On ne peut pas comprendre nos propres mouvements et ceux des gens qui sont en face de nous. C'est bien ça?
Absolument. Je dirais que la seule forme de faire quelque chose d'utile avec le futur, c'est d'avoir le passé toujours présent. Et surtout, c'est passer les passés plus durs. Les passés plus... plus durs, plus... atroces, non? Nous avons tous ces passés. Quand j'étais jeune, je pensais, Catherine, que mon pays était différent. que seulement mon pays avait des problèmes avec les passés. Et évidemment, l'Espagne a un passé très dur, mais... Et spécial, différent de la France, non? La différence, c'est que l'Espagne... On dit toujours que la guerre d'Espagne a duré 3 ans. C'est faux, complètement faux. La guerre d'Espagne a duré 43 ans, parce que le franquisme, la dictature, a été la guerre par d'autres moyens. Et c'est exactement ça. C'est la différence. Alors notre passé plus dur est plus prochain que votre passé plus dur. Mais vous avez aussi un passé. Et oui, c'est très simple. Au commencement, quand j'ai commencé à écrire certains livres, je veux dire... Le premier livre,
peut-être. Les soldats de Salamine.
Les soldats de Salamine. Je n'étais pas conscient, mais aujourd'hui, je crois que mes livres sont une bataille inconsciente, au commencement inconsciente, toujours plus consciente, contre ce que j'ai appelé la dictature du présent. Et cette idée que vous avez exposée très bien. C'est-à-dire, cette idée que, en partie créée par le pouvoir énorme croissant de médias, et bien sûr, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux aujourd'hui, cette vision ridicule, complètement fausse, selon laquelle le présent est seulement aujourd'hui, dans ce moment. Et que ce qui s'est passé ce matin, bon, ça s'est passé. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, bon, ça s'est vraiment passé. Et ce qui s'est passé il y a un an, c'est la préhistoire. Il n'y a pas une relevance, c'est pas relevant pour comprendre le présent. Ça, c'est complètement faux. Et les passés, et surtout les passés, duquel il y a encore mémoire et témoin, surtout ce passé, que c'est le passé de mes livres à la fin, ce passé n'a pas passé. Ce passé, c'est une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé. Alors, on ne peut pas comprendre notre présent sans comprendre ce passé. Et je crois que beaucoup de mes livres sont un effort modeste, mais un effort pour montrer ça, pour montrer que ce passé existe aujourd'hui, que ce passé fait partie de notre présent.
Mais en vous écoutant, Javier Cercas, je pense toujours politique. Donc je pense que, au fond, la littérature que vous défendez, celle qu'on aime, celle qu'on lit, celle qu'on soutient, c'est une politique qui, c'est une littérature que les politiques doivent détester parce que tous nos politiques, quels qu'ils soient, dans tous les pays à l'heure actuelle, à de très rares exceptions, peut-être l'Angleterre, vaguement.
Je ne suis pas sûr.
Rejette justement ce passé. Ouais. C'est la politique de l'instant. Or, la littérature nous entraîne justement sur des chemins qui nous font nous réapproprier notre passé, comprendre pourquoi les gens fonctionnent comme ça. Et qu'au fond, les oppositions d'il y a 50 ans sont toujours les oppositions d'aujourd'hui.
Absolument. Les pouvoirs, même s'ils apparemment disent que la littérature c'est bien et tout ça, le pouvoir a peur de la littérature, toujours. Et si le pouvoir est tyrannique, alors la peur c'est terrible. Mais même le pouvoir démocratique, pour les raisons que vous avez dites, mais aussi pour une autre raison qui c'est essentielle. Les pouvoirs, toujours, tout pouvoir, c'est une chose très claire, que pour contrôler les présents et les futurs, il doit contrôler le passé. Et alors, le pouvoir veut toujours imposer une vision manipulée, ad hoc, du passé, pour contrôler les présents et les futurs. Et alors, je crois que l'obligation, les devoirs du citoyen, du journaliste et de l'écrivain surtout, c'est de montrer la complexité du passé, c'est de lutter, d'avoir un combat contre cette imposition. Alors là, il y a toujours, selon moi, toujours, dans la littérature en général, mais surtout dans les romans, une rébellion contre le pouvoir. Ça, c'est comme ça.
Tout à l'heure, Javier Cercas, vous citiez Jorge Luis Borges, qui disait autrefois, au fond, tous les bons romans sont des romans policiers. Oui. Et là, vous avez choisi la forme du roman policier. Je le dis, on peut le lire comme un roman policier, mais c'est bien autre chose. Mais il se trouve que Melchior Marín est un policier. Mais au fond, cette forme-là, elle vous permet d'aborder beaucoup d'autres choses et de réhabiliter ce genre. Parce qu'on dit souvent, c'est un roman policier, c'est pour un livre un voyage en train. Mais là, c'est un livre qui brasse bien d'autres choses. Et puis toujours la complexité des âmes humaines et le point aveugle autour duquel vous tournez. Et au fond, je me dis, ce travail de Melchior Marín, de reconstruction personnelle, de réécriture de l'histoire, de réappropriation de ses mémoires, au fond, vous êtes un flic, Javier Cercas. Vous faites un travail de flic, au fond, vous-même.
Ah mais absolument, absolument. Pas seulement ça, oui, je suis d'accord. Borges disait effectivement que tous les romans sont des romans policiers. Ce que je dis, c'est que je suis absolument sûr que tous mes romans précédents étaient des romans policiers. Parce que dans tout, il y avait un énigme et quelqu'un qui voulait déchiffrer cette énigme. Et souvent, l'énigme était au passé et était relevant pour le présent. Ça, c'est exactement ce qui se passe à Terra Alta. Et bien sûr, vous avez complètement raison, dans le sens qu'il y a des gens, encore, incroyablement, aujourd'hui, qui pensent que les romans policiers, disons, c'est un genre mineur. Bon, qui pense ça ne sait pas qu'est-ce que c'est la littérature. Parce que en littérature, je dirais en art en général, il n'y a pas des genres mineurs ou majeurs. Il y a des formes majeures ou mineures d'utiliser les genres. Il y a Edgar Allan Poe, il y a Borges, il y a Simenon, il y a Chacha, qui sont très bons, et en même temps, il y a des gens qui sont pas intéressant. Alors, il y a seulement deux types de romans. Les bons romans et les mauvais romans. C'est tout. Le reste, c'est bavardage. Et permettez-moi de dire une chose très importante. Quand Cartier-Bresson travaillait, Pour revenir à Cartier-Bresson, que c'est l'important.
On allait y revenir.
Quand Cartier-Bresson travaillait, la photographie n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et c'est-à-dire que c'était un genre populaire. Et j'aime ça. J'aime cette humilité. C'est-à-dire, je crois que Cartier-Bresson travaillait avec ça, avec cette humilité de la photographie. Il savait très bien que ce qu'il faisait, c'était important. Mais il aimait cette humilité. Et si vous me permettez, j'aime beaucoup cette humilité du roman policier.
Alors, on disait, Javier Sacas, votre dernier héros, Melchior Marín, est un policier. L'auteur, Javier Sacas, est parfois un policier. Et alors, le photographe?
Quand on photographie, ben, les gens vous prennent pour les flics. Qu'est-ce que c'est que ce type-là? Ils ne se rendent pas compte. Enfin, il y a une espèce de psychose. Tout le temps, on prend pour un flic. Alors, il faut trouver la réponse rapide, comme ça. Il faut dire tout ce qui vous passe par la tête. Puis, j'ai jamais pris de coup de poing sur la gueule, mais il faut tirer le premier. Vite, vite, vite. Pas s'enfuir, avoir l'air suffisamment idiot. Et c'est un métier, mais enfin... Le petit doigt, c'est l'œil, tout ça. Mais c'est de mettre dans la même ligne de mire le cœur, la tête, l'œil. Et une façon de vivre.
Eh bien voilà, nous arrivons, dommage, au terme de cette émission. C'est toujours passionnant de parler avec vous, Javier Sacas. Je rappelle que votre dernier livre, Terra Alta, vient de sortir aux éditions Actes Sud et que cette superbe exposition Cartier-Bresson, Le Grand Jeu, c'est à la Bibliothèque Nationale de France jusqu'au 22 août. Et c'est à voir, évidemment, pas seulement pour la sélection de Javier Sacas, mais pour la sélection des 5 commissaires de cette exposition. Merci à vous, Javier Sacas, et on attend la suite des aventures de Melchior Marín, qui est annoncée. Independencia est sortie en Espagne, bientôt en France. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bon retour en Catalogne.
Merci.